Les voix du livre. Une émission proposée par Claire Garand, biographe chez memorialiste.fr, en partenariat avec la librairie Le Cyprès Jean de la Lune à Nevers et Arthur Caillot, l'ado accro au livre. Bonjour Arthur.
Bonjour Claire.
Alors Fanny aujourd'hui ne pourra pas être des nôtres, mais nous pensons bien à elle. Et nous sommes bien dans les studios de Bac FM, même si nous ne pouvons être qu'à deux en même temps dans le studio, qu'à cela ne tienne, tout le monde s'adapte. Alors ce mois-ci, vous pouvez d'ailleurs commander vos livres chez vos libraires et ils vous les enverront directement chez vous pour seulement un centime de frais de port. Oui, c'est la vérité. On aimerait d'ailleurs que ça dure. C'est un bon début. N'hésitez pas non plus à acheter vos livres directement sur les sites des petits éditeurs et des auteurs indépendants. Tout le monde s'adapte en effet. Par exemple, la rencontre prévue à la Maison de la Presse de Nevers avec Éric Reinhardt aura bien lieu. Si, l'auteur de Comédie française, paru aux éditions Gallimard, sera bien présent à Nevers et en dédicace, mais, et oui, parce qu'il y a un gros mais, la rencontre aura lieu en visioconférence. Oui, c'est la visioconférence, la dédicace à distance, exactement, à partir de 18h, et les dédicaces aussi à distance, c'est-à-dire que le livre vous sera envoyé, dédicacé après la rencontre. Alors, si vous souhaitez y assister, vous pouvez envoyer un message à MDP comme maison de la presse, MDP Nevers, tout attaché sans point, @orange.fr. Et oui, il faut être inventif, mais pour le plaisir de lire ou d'offrir un livre, que ne ferions-nous pas? Oui, offrir un livre, car moi je commence à penser à mes cadeaux de Noël. Et nous avons l'embarras du choix, tellement de choix que je vais vous laisser le soin, Arthur, de nous présenter vos coups de cœur
mois. Surtout que pour ce mois de novembre, j'ai choisi de vous parler de mes deux derniers coups de cœur et j'en ai eu beaucoup, beaucoup ces derniers temps. Donc ce sont vraiment deux pépites. Alors d'abord, je vais vous présenter le nouveau roman de Manon Fargeton, À quoi rêvent les étoiles, qui m'a fait voyager et rêver. Et ensuite, je vous parlerai d'un roman assez particulier, nommé Le Journal de Rénia. Mais je ne vous dis rien, vous en saurez plus tout à l'heure.
Et puis c'est deux livres complètement différents.
Hein. Totalement. Je commence donc sans plus tarder avec ce roman au titre si poétique, À quoi rêvent les étoiles. Manon Fargeton maîtrise la plume à merveille, et chacun de ses romans sont toujours ensorcelants et délicieux. On a l'impression de manger un bonbon au cœur fondant.
Alors là, il y a plusieurs bonbons, plusieurs parfums dans le bonbon, justement.
Oui, parce que À quoi rêvent les étoiles, justement, c'est l'histoire de cinq personnages qui sont tous liés entre eux sans forcément se connaître. Nous avons d'abord Luce, qui a perdu son Lucien depuis 2 ans, et qui par un moment d'égarement va lui envoyer un SMS. SMS que Titouan reçoit et qui l'intrigue. Bah oui, parce que justement, l'autrice, elle a eu la base de cette idée du roman en lisant un article. Et en fait, les numéros de téléphone des morts, 6 mois après, ils sont réattribués à quelqu'un d'autre.
Tout à fait.
Et du coup, c'est de là qu'est née l'origine de ce roman, et du coup, j'ai trouvé ça très intéressant.
Oui, c'est un peu effrayant de recevoir un SMS d'un mort.
Oui, c'est bizarre. Oui, un peu. Alors du coup, Titouan, lui, joue au jeu vidéo en ligne avec Alix, et Alix et son père Armand, qui est toujours sur son dos. Et enfin, on a Gabriel, ami avec Armand et professeur de théâtre d'Alix. Donc ces 5 personnages sont vraiment hors du commun et tellement réels. Si vivants et si justes qu'on a l'impression qu'ils sont avec nous, quoi.
Hors du commun et en même temps, on peut facilement s'y identifier.
Exactement, c'est ça.
C'est un tour de force.
Oui, c'est Manon Fargeton.
Voilà.
c'est un roman lumineux, exquis, et je pense qu'il est indispensable pendant cette période de confinement, justement, puisqu'il porte un message important.
Tout à fait.
Il faut toujours croire en ses rêves et saisir toutes les chances qui s'ouvrent à nous.
Ça ne nous fait pas de mal de penser à ça.
Ouais, donc c'est un vrai chef-d'œuvre. Pour vous mettre un peu dans le bain, justement, et pour vous donner encore plus envie de le lire, voici un petit extrait. Le monde est petit, tout petit. Il y a presque un siècle, un écrivain hongrois a imaginé dans l'une de ses nouvelles qu'une personne sur la planète peut être reliée à n'importe quelle autre par une chaîne de 6 relations individuelles. La théorie des 6 degrés de séparation, il a appelé ça. Imaginez un instant, imaginez-vous, en train de tenir la main d'un proche ou même d'une vague connaissance qui elle-même tient la main d'un de ses amis que vous n'avez jamais croisé, et ainsi de suite jusqu'à former une chaîne de 6 personnes. On pourrait relier l'humanité entière comme ça, à partir de vous. Quelle que soit la famille ou le pays dans lequel on est né, quel que soit le métier que l'on exerce, quels que soient nos rêves, nos peurs, nos fantasmes, que l'on passe notre vie sans bouger de notre village natal ou que l'on parcourt le monde, chacun d'entre nous peut être connecté à n'importe qui en 6 petites étapes de personne à personne. Et puis parfois, de nouvelles connexions se créent qui raccourcissent soudain ces chaînes de relations, court-circuitant les intermédiaires. Des rencontres improbables qui peuvent bouleverser des vies entières. Hasard, destin, accident, chance, signe, nœud d'énergie, alignement de planètes. Appelez ça comme vous voulez. Moi, j'appelle ça magie.
De la magie dans notre quotidien, ça fait
exactement. Voilà, du coup, j'espère que ça vous aura donné envie de le lire.
Bon, bah, j'espère que les auditeurs se disent, tiens, c'est tout à fait ce qu'il me faudrait en ce moment.
Totalement.
Bon, alors, le deuxième, c'est peut-être moi.
Du coup, je vais vous parler d'un roman encore plus touchant, mais un peu, pas déprimant, mais qui fait peur, quand même, parce que il s'agit d'un témoignage réel d'une jeune adolescente polonaise pendant la Shoah. Alors, justement, ce roman a été préservé pendant 70 ans dans un coffre-fort par sa famille, et le journal de Renia vient tout juste de paraître en France. Du coup, je pense que c'est un bel hommage à ce témoignage aussi important et fort que celui d'Anne Frank, à mon avis, et qui risque de devenir aussi célèbre. Il est sorti en édition adulte et ado, mais je vous conseille plutôt la version ado si vous n'avez pas trop de connaissances sur le contexte de la Pologne et les événements là-bas pendant la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il a été annoté spécialement par une enseignante.
Oui, ça fait toujours du bien d'avoir un peu de contexte, qu'on soit grand
ou pas
grand.
Oui, parce qu'il y a des notes de bas de page qui expliquent, et justement, moi, je connais un peu le contexte quand même, mais en Pologne, des événements en particulier, je veux dire, je connais pas forcément exactement,
il faut être... C'est ça. D'autres pays.
Donc je trouve ça bien d'avoir fait une version avec une enseignante. Donc, ce journal intime de Renia nous livre toutes ses pensées entre 1939 et 1942, date à laquelle elle se fera assassiner par la Gestapo à 18 ans.
Oui, ça calme.
Elle y partage ses joies, ses tristesses, ses peines, ses espoirs, ses angoisses, son bonheur, ses amours et surtout ses poèmes. Elle veut devenir poète et son journal est rempli de ses écrits superbes. À travers eux, nous plongeons au plus profond de son âme et le réalisme est saisissant.
C'est ça qui est beau d'ailleurs dans ce texte.
C'est magnifique. C'est ça qui est assez étrange aussi parce que ce n'est pas de la fiction mais de la réalité.
Tout à fait.
On se dit que ça a vraiment eu lieu et qu'il y a près de 80 ans, une adolescente de 15 ans écrivait ces mots dans son carnet.
C'est poignant et c'est très présent.
Et en même temps, c'est terrible parce qu'elle ne savait pas qu'elle allait, que les nazis allaient venir lui voler sa vie. Et c'est tout ça parce qu'elle était juive. Et du coup, c'est tellement terrible, horrible de se dire que des millions de gens ont perdu la vie comme ça.
Certes.
Bref, c'est un témoignage puissant qui mérite d'être lu. Mais en plus d'être un témoignage de guerre, pour pas vous rendre dépressif quand même, c'est aussi celui d'une jeune fille de 15 ans. Parce que elle y livre ses peines, ses joies, elle y livre toutes ses pensées de 15 ans, quoi. Et c'est beau, c'est essentiel, c'est l'adolescence.
Oui, et puis moi je pense qu'il ne faut pas voir ça comme quelque chose de négatif, mais plutôt comme une espèce d'hymne à la vie.
C'est
parce
ça.
Que on est tous amenés à mourir à un moment qu'on ne connaîtra pas. Et elle a pleinement vécu
profiter
ces moments.
De sa vie,
et c'est vrai que c'est très beau. Et ça, paradoxalement, ça redonne du plaisir à des petites choses. On reprend plaisir à des petites choses. On savoure encore mieux quand on lit ce journal autobiographique.
Oui. Et en plus, ça permet de prendre un peu du recul sur notre situation, puisque nous sommes certes confinés, mais nous n'avons pas à nous cacher, à faire le moins de bruit possible, en craignant d'être arrêtés et tués à chaque instant.
Alors normalement, non.
Même pas du tout.
C'est particulier.
Du coup, c'est un roman
c'est
essentiel.
Terrible. Oui.
Voilà.
Eh bien, merci beaucoup, Arthur. Alors, aujourd'hui, nous recevrons Laurent Rivière donc pour le roman noir. Donc, le noir est un petit peu la thématique. En l'absence de Fanny, je vais, moi, vous proposer mes deux coups de cœur. Et moi aussi, j'ai choisi la thématique du noir, puisque nous étions sur le roman noir. Alors, l'un est un essai qui s'intitule « Un monde en nègre et blanc » de la chercheuse Aurélia Michel, qui est sortie en poche directement, c'est assez rare. Et c'est intéressant puisque c'est beaucoup plus facile d'accès. Il est sous-titré « Enquête historique sur l'ordre racial ». L'autrice est maîtresse de conférences à l'université Paris Diderot et spécialiste des Amériques noires. Alors, pourquoi lire cet essai? Surtout que, bon, a priori, on a déjà beaucoup écrit sur ce sujet. Eh bien, parce qu'on y apprend comment la notion d'esclave a évolué entre le XVIe et le XXIe siècle. Oui, il y a toujours de l'esclavage au XXIe siècle. Et comment le mot nègre, j'ai bien dit nègre, pas noir, est devenu synonyme d'esclave. Oui, c'était dans les dictionnaires. Les mots ont un sens et ce sens évolue, façonne nos représentations et celui-là en est un bel exemple. Alors, à nouveau, pourquoi lire cet essai? Pour une deuxième raison. Parce que l'auteur explique de manière très argumentée et documentée, c'est sa spécialité, que c'est parce que des Européens ont réduit en esclavage des Africains qu'ils sont devenus racistes et pas l'inverse. Oui, vous m'avez bien entendu, c'est contre-intuitif, mais très logique finalement, puisque pour des raisons économiques, on se retrouve à traiter ces humains de manière horrible, alors il faut bien y trouver une justification, sinon quoi ? Eh ben, sinon, on fait ce que proposait Dupont de Nemours, le physiocrate, et là, c'est pas possible du tout. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il proposait donc ce physiocrate de si révolutionnaire ? Eh bien, je le cite, j'adore cette citation, « Si effectivement le travail esclave était la seule manière de produire du sucre, il faudrait alors se passer de sa consommation, tant l'esclavage est inadmissible sur le plan moral. » Ah, se passer de sucre. Ben non, il vaut mieux prétendre que les Noirs ne sont pas des hommes. Le sucre, c'est trop bon. Donc, cet essai nous en apprend beaucoup. Il faut le lire pour comprendre aussi comment ce traitement est rendu possible. Comment, et je cite Aurélia Michel, « Comment tout tortionnaire est obligé de se couper d'une part de lui-même, celle qui est affectée par la destruction et la violence, celle qui sait que sa victime est un autre lui-même. » Ben oui, parce que on ne peut pas torturer quelqu'un dont on pense qu'il est un humain comme soi. C'est pas possible. Bref, on comprend beaucoup mieux et le racisme et l'esclavage en dévoilant l'origine et l'évolution. Alors maintenant que j'ai bien replombé ambiance après le journal de Rénia, je vous propose quelque chose d'un peu plus léger pour respirer un peu. Alors, c'est toujours dans le noir, donc ça s'appelle Dark Matter. Le titre français est anglais, c'est le titre de la version française traduite par Patrick Imbert. C'est un roman de science-fiction de l'auteur états-unien Blake Crouch, paru chez J'ai lu en 2016 et lauréat du prestigieux prix Julia Verlanger. Alors, pourquoi ce roman est-il léger ? Alors, léger, tout est relatif, hein. Mais il s'interroge sur le bonheur et sur les choix. C'est un thème d'ailleurs qu'on retrouve très souvent dans les romans young adultes.
Oui, bien sûr.
Alors là, c'est traité d'une manière un petit peu différente. On est plus dans la physique quantique. Que serait devenue ma vie si, c'est la vérité. Que serait devenue ma vie si j'avais consacré toute mon énergie à analyser l'intrication quantique au lieu de m'occuper de ma famille? Que serait devenue ma vie si je n'avais pas gardé cet enfant non désiré et si j'avais laissé se développer ma créativité picturale? Suis-je plus heureux de vivre tranquillement chez moi avec des gens que j'aime? Ou bien en génie de l'art ou de la physique quantique. Parce que précisément, et oui, la mécanique quantique peut nous entraîner très loin dans ce roman, le héros de ce roman peut voir la différence grâce à l'intrication quantique, la superposition quantique. Il peut aller à la rencontre du meilleur des mondes pour lui-même et en profiter. Mais tout n'est pas si simple, bien sûr, car il y a d'autres lui-même qui ont eu la même idée. Et on ne peut pas avoir plusieurs soi-même dans une même dimension. Et puis, se promener dans le multivers, c'est le nom qu'on donne à ces univers multiples, c'est s'exposer à des risques que nous, pauvres mortels enfermés dans un seul univers, n'imaginons même pas. Donc ce roman plein de rebondissements, bien trouvé, hein, plaira à ceux qui se demandent s'ils ont fait le bon choix dans leur vie ou à ceux qui se demandent quel choix il faut faire à l'avenir, à ceux qui s'intéressent aussi à l'intrication quantique. Il n'y a pas besoin d'avoir un doctorat en physique nucléaire, hein, mais disons qu'il faut quand même s'intéresser un petit peu au sujet. Et surtout à ceux qui n'ont pas peur des paradoxes, parce qu'il y en a plein. Donc Dark Matter, qui signifie matière noire, eh bien c'est à une autre matière noire que je vous convie juste après la pause musicale, la matière du roman noir. Donc à tout de suite avec Laurent Rivière.
Je suis dans le premier Mario. À chaque fois je crois que j'ai fini le jeu, ça repart à zéro. En plus rapide, en plus dur, je devais être plus mûr. J'ai dû me tromper de futur. J'aimerais retrouver la magie du début. Rien ne fonctionne quand le cœur n'y est plus. Ça fait mal à la fierté, j'ai du mal à l'admettre. Mais j'ai jamais été aussi perdu. Le monde est un PMU où n'importe qui donne son mauvais point de vue, où la télé passe des infos déjà vues, pendant que la radio joue des sons qu'on n'écoute même plus. J'essaye de trier entre les snobs pointus et les mongols incultes, je sais plus où cliquer. J'essaye de fitter, rester d'actualité, sans devenir ma propre télé-réalité. Je veux pas rester figé, piégé dans mon personnage comme une prise d'otage à Disney. Mal vieillir comme un vieux punk. Quand tu crois que t'es Bart, mais t'es Monsieur Burns. Je suis pas chez moi dans la capitale. Je continue d'écrire sur une ville où j'habite pas. J'essaie d'être un homme bien, mais je suis plutôt moyen. Je crois que je suis juste un génie du mal. Je regrette mes vieux démons. Roi dans le mensonge, esclave dans le vrai monde. Vigilant à chaque seconde. Si je le laisse seul, mon esprit s'égare dans la pénombre. Je pensais me lever un matin, être un homme. Sûr que la vie que j'ai choisie est la bonne. Fiable, avoir construit quelque chose de stable. Je suis qu'un sale gosse sur un château de sable. Marre de faire des grands sacrifices pour des petites gloires. Sans même savoir savourer la victoire. Mes nuits sont blanches, mes idées noires. C'est comme chaque fois que j'ai arrêté de boire. Et que les journées sont plus que des gueules de bois. Pourquoi tu veux mettre un bébé dans les bras? J'ai déjà du mal à m'occuper de moi. J'essaie d'être droit, de faire des choix. De faire plaisir à tout le monde à la fois. La famille, les amis de la famille. La famille, des amis, divertir un public qui me connaît pas. Peu importe ce qu'il croit, je suis toujours à deux doigts du craquage, à deux doigts du pétage de carte. T'étonnes pas si tu me vois marcher dans la rue en pyjama. Mais je craquerai pas, je craquerai pas, je craquerai pas, je craquerai pas. Je pourrais plus m'enfuir, mon frère a deux enfants, je veux les voir grandir. Je veux plus faire semblant, plus jamais mentir. Je suis déjà fou, autant rester dans le délire. Hein, je serai celui qui fait une blague avant de mourir. Celui qui part dans un fou rire. Hein, je veux laisser mon propre souvenir. Pas faire du sou, le mec à la mode en pourri. Hein, les temps changent, les gens changent. Mais je m'ennuie vite, j'aime le changement. J'étais déjà différent, je le serai jusqu'à la nuit des temps. Vie rapide, mec lent. Avant j'avais peur d'être pas normal. Quand je vois les gens normaux, je suis fier d'être pas normal. Le monde est vénéneux. Mon cerveau fait des nœuds, je me fais à l'idée d'aller jamais mieux. Je voulais écrire pour les haineux, mais je vais faire mieux, écrire pour ceux qui m'aiment eux. C'est toujours pour ma ville quand je mets le feu. J'ai tout le reste de ma vie pour être vieux. Où sont passés les stars de ma jeunesse? Morts ou devenus des parodies d'eux-mêmes. Je veux jamais faire pareil. Retour vers le futur, je veux pas rater le troisième. Je veux faire des chansons d'amour homicide qui poussent un célibataire au suicide. J'aimais le rap avant que la hype gentrifie. Vodka Doliprane, maintenant j'anticipe. J'ai dit je t'aime à des connasses qui n'en valait pas la peine, j'ai jamais dit je t'aime à ma mère. Je veux plus faire marche arrière, j'arrive à peine à la fin du début de ma carrière. J'ai fait des erreurs, j'ai fait des choses louches. J'ai fait des rappeurs, j'ai fait des fausses couches. Quand je disais c'est nous le futur, je parlais de maintenant. Je parlais de cet instant, le futur c'est maintenant. J'ai tous les flots, je serai jamais sec. À Paye Scred, je vais jamais perdre. On a commencé dans une salle des fêtes. On va devenir ce qu'on voulait être. Merde, j'arrive en gun kata. Jeune bâtard, meurs voilà. Saitama, punch fatal. J'écris chaque phrase comme si Michael pouvait voir ça. Je serai pas la médiocrité m'avoir. J'ai vu assez de bâtards tristes pour croire au karma. Aurel San par 3, le dernier volet de la saga. San, ça veut dire 3. San, ça veut dire monsieur. San, j'ai mis la moitié de ma vie pour savoir ce que je veux. La fête est finie.
Vous êtes bien sur Bac FM, de retour dans les voies du livre, émission spéciale confinement. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Laurent Rivière. Bonjour Laurent.
Ben, bonjour à tous, je suis très content d'être avec vous.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Et avec ce morceau assez original d'Aurel San, donc San, pour quelle raison ce choix?
Justement, ce matin, vous m'avez demandé de réfléchir à un titre à présenter aux auditeurs. Et ce matin, par hasard, mon garçon Léandre, qui a 11 ans, me dit voilà, tiens, je découvre Aurel San et j'ai ce titre qui me plaît bien. Ça s'appelle San, donc d'Aurel San, et je l'ai trouvé bien écrit. Voilà, je suis pas forcément fan, mais je me suis arrêté 2 minutes pour écouter, et effectivement, je trouvais qu'il y avait une écriture, il y avait de l'énergie, et donc je le fais partager.
Et vous avez eu envie de le partager avec nous, bah merci beaucoup. Alors Laurent, vous êtes l'auteur de La Diagonale du Loup, prix du Polar en Hivernais 2019, de Morvan de Chien, et plus récemment de Dans les bras morts. Alors, ce qui frappe tout d'abord dans vos romans, c'est qu'ils se caractérisent par un fort attachement aux lieux, aux gens, au territoire, à la Nièvre. Alors, tout de suite, ma première question est évidente. Des romans noirs qui se déroulent dans la Nièvre, en fait, on en trouve pas mal. Je pense à Rural Noir de Benoît Mainville, paru chez Gallimard. Je pense à La Mélancolie des Incurables de Thierry Desseux, qui vient de paraître aux éditions Maya. Je pense à Déviation Nord de Thierry Berlanda, publié chez Deboré. Et bien sûr, au vôtre. Alors, Laurent, la Nièvre, est-elle pour vous une terre de romans noirs?
Moi, j'ai un attachement qui est naturel, qui est pas forcé. Voilà, j'ai été éducateur sportif dans des clubs du coin. J'ai été investi comme bénévole aux accros, Café Charbon, à la vie de château, enfin Séniquanone, tous les festivals de Séniquanone. Donc j'ai pu observer ce territoire et vraiment je l'aime, quoi. Je l'aime sans prétendre qu'il soit plus beau que les autres. Simplement que je pense le connaître et voilà. Donc j'ai envie de le faire partager dans mes polars.
Et vous pensez que c'est un lieu particulièrement propice aux histoires policières, aux histoires un petit peu sombres?
Alors je vais casser les codes, mais déjà je vais te tutoyer si c'est possible.
Bien sûr.
Bon, voilà, ça va aussi correspondre à ce que j'écris où j'essaye de le faire sans fioriture. Et ouais, c'est une terre de polar parce qu'il y a des choses brutes dans la Nièvre. Il y a des choses. Déjà tu as le Morvan et tu prends une bonne claque, une claque végétale, une claque climatique quand tu vas dans le Morvan. J'ai fait la Loire, c'est pour moi une terre, mais c'est une eau de roman noir, parce que moi en grandissant autour de Nevers, la Loire c'était le fleuve interdit. Nos parents nous interdisaient de nous baigner dans la Loire parce qu'elle a emporté plein d'enfants, plein d'adultes. Donc c'est un fleuve mystérieux, inquiétant. Sur mon polar, sur la Loire, j'avais aussi évoqué les Bronx, les tambours du Bronx. Mm-hmm. Et ben l'étiquette noire, elle est évidente. Ils sont rock, les gars. Ça fait plus de 30 ans qu'ils sont.
C'est assez sûr qu'ils sont rock, oui.
Voilà, donc moi j'ai mes éléments noirs à côté de chez moi. J'ai pas besoin d'aller chercher, de faire un polar norvégien dans la neige.
Voilà. La neige du Morvan convient.
Ben, elle suffit, voilà, elle suffit. Les gens du Morvan, ceux qui sont restés, c'est vraiment la crème du lieu, parce que tu le sais, le Morvan a perdu un peu tous ses jeunes au fil des siècles, hein, les nourrices qui sont partis, les bûcherons, la terre a gardé vraiment les meilleurs, on va dire, ceux qui sont vraiment les amoureux du lieu. Et j'aime bien me confronter à eux, quoi. Voilà, j'aime bien.
Alors justement, dans quelle mesure est-ce que ton écriture se nourrit de la réalité?
Ah ouais, dis donc, c'est des questions. Non, alors je vais profiter. L'émission, faut démythifier à mes yeux le rôle de l'écrivain, machin. On écrit. Moi, je pense qu'on écrit un peu ce qu'on est, et puis qu'on réécrit un peu 10 fois le même bouquin, quoi. Même si on change de lieu, même si on change les personnages, moi je saurais pas faire du roman mélancolique, enfin du roman sentimental, je saurais pas faire de la fantaisie.
Tu as l'impression de creuser une veine qui te parle.
Faire une œuvre, mais pas dans le sens avoir le melon et dire j'ai créé une œuvre, quoi. Mais voilà, tenir à avoir son petit carré de terrain que tu pioches, que tu bêches, voilà, tu le fais, tu t'essayes de le faire bien, de mieux en mieux, t'essayes de pas bâcler les choses, même si c'est le troisième, le quatrième bouquin, que t'en es à la 300e page. Enfin, moi j'ai fait que des bouquins de 250 pages, mais bon. et puis la réalité, comme tu posais la question, enfin ouais, elle est évidente, parce que comme c'est des polars, je me renseigne beaucoup auprès des gendarmes, auprès des policiers. Mmh. Donc, t'as plein d'anecdotes qui sont issues de leurs témoignages. Donc, elle est là, la réalité.
Et alors, justement, par exemple, si on prend Dans les bras morts, comment est-ce que tu as débuté l'écriture de Dans les bras morts? Qu'est-ce qui t'en a donné l'idée? Qu'est-ce qui t'en a donné l'envie?
Alors déjà, il fallait que je fasse vivre mon flic. Donc, je devais lui donner une autre enquête, et puis voilà, je voulais vraiment rendre hommage à la Loire, au Bronx, au lieu, enfin, on rencontre, en fait, quand tu es dans le coin, tu vis dans le coin, et tu t'aperçois que beaucoup de gens se plaignent du manque d'animation, du manque, il y a rien dans la Nièvre, on se fait chier, machin, et ouvre les yeux, quoi, en fait, ouvre les yeux, il y a des choses tous les week-ends, on a le plus grand fait, on a le, quoi, non, allez. On a un des plus grands festivals de jazz, un des plus grands festivals d'art de la rue. On a Nevers à Vif qui est là depuis 30 ans. Enfin, il y a what, mille choses à faire. Et donc moi, je ne me posais même pas la question de ce que j'allais faire comme polar. J'ai tout sous la main.
Et la Loire, donc pour Dans les bras morts, c'était peut-être l'élément central qui t'a donné envie de le mettre en scène, de le rendre vivant, présent.
Ouais, parce que tu as la Loire, elle est méconnue, elle est très mal vendue. Là, ça fait 2-3 ans qu'on nous fait une fête de la Loire avec 3-4 bateaux, 2 buvettes, mais c'était un autoroute. Enfin, je l'ai découvert. Je l'ai découvert en discutant avec des anciens, en épluchant les archives. Mais il y avait sur la Loire, c'était gavé de bateaux, de. Il y avait ces inexplosibles, et je m'en sers. Enfin, je l'évoque dans le bouquin. On avait sur la Loire à Nevers des inexplosibles, des bateaux de 40 mètres à roue à aube, comme les steamers, je sais pas comment on dit, du Mississippi. Donc on avait ces bateaux-là jusqu'à 1850 environ, le chemin de fer. Tu avais sur la Loire ces bateaux-là qui emmenaient les gens jusqu'à Decize, où il y avait 150 passagers. Enfin, c'est méconnu.
Et c'est cette mémoire que tu voulais un petit peu faire renaître.
La mettre en valeur. Enfin, le spectacle est dans l'œil du spectateur. Si t'as envie de voir les choses belles, tu vas les voir belles. Et nous, je trouve qu'il y a trop de gens négatifs. On le voit sur les réseaux sociaux, les commentaires café du commerce sur chaque article du JDC, par exemple. Où t'as, ouais, on se fait chier, ouais, c'est mort, ouais, ils ont fermé la discothèque, mais. Enfin, moi, j'ai pas de temps pour moi quand j'ai vraiment envie de sortir, que je suis pas en période d'écriture et que j'ai besoin de sortir, de voir des gens. Enfin, je parle de la Nièvre en général, quoi. Enfin, les festivals, il y en a partout.
Alors justement, tu parles des périodes où tu écris, des périodes où tu n'écris pas. Quels sont pour toi les plaisirs, mais aussi les difficultés de l'écriture spécifique d'un polar noir?
Alors, je sais pas si le polar demande des qualités spécifiques. Ce que je sais, c'est que l'ordinateur et Internet a changé beaucoup de choses. Moi, j'avais commencé il y a plus de 20 ans, parce que ça me tenait à cœur. Enfin, l'écriture, elle est en moi depuis un moment, et j'ai commencé à le faire avec des petites machines à écrire où tu ne peux pas corriger. Enfin, et puis j'allais à Jean Jaurès pour chercher des infos. Jean Jaurès, c'est la médiathèque de Nevers. Donc j'allais feuilleter des bouquins, et aujourd'hui tu as ton ordi. Moi, mon texte, il est continuellement ouvert, et je me lève au milieu de la nuit parce que je suis réveillé. Je peux m'y mettre pour aller changer 3 virgules. Je peux me mettre le matin dans le silence avec les loulous, avant que les loulous se lèvent. Enfin, l'ordinateur et puis Google est ton ami, quoi. Enfin,
ça a changé ta vie d'auteur.
Ah ben évidemment, oui. Tu prends contact en commençant à maîtriser un peu les réseaux sociaux. On parlait de la Loire. Comment j'écris mon polar Dans les bras morts. Enfin, je me posais des questions sur la Loire. J'ai réussi à rentrer en contact avec une plongeuse, une archéo plongeuse sous-marine, donc qui fait des recherches sous l'eau. Enfin, c'est des choses parce que tu fais 3 rebonds sur Internet, t'oses un coup de fil à un 03 qui est là, et tu dis tiens, je me présente, je suis auteur de polar, parlez-moi de votre travail. Enfin, c'est génial. Ça te donne même pas 3 lignes dans le bouquin, mais. Donc, voilà, c'est pour moi l'ordinateur et la navigation Internet changent vraiment la manière d'écrire.
Et est-ce qu'il y a quand même des éléments qui sont pour toi particulièrement difficiles quand tu écris? Qu'est-ce qui est le plus délicat? Quels sont les passages qui te...
Ce qui m'a gêné au cours de mes bouquins, ce qui me gêne encore, c'est que les éditeurs ne rentrent pas encore assez dans ton histoire. C'est-à-dire qu'on m'a presque pris des bouquins clés en main. Et ça te limite dans ta progression. Moi, j'ai eu un maître à écrire, un monsieur qui a cru en moi quand j'ai débuté à mon premier polar, et il me faisait des retours correcteurs. Enfin, voilà, il avait un esprit correcteur.
Oui, un vrai travail d'éditeur.
Voilà. Et enfin, je sais pas toi, puisque tu es aussi dans ce milieu-là. Enfin, moi, pour l'instant. voilà, aux éditions du Toucan, qui est un éditeur national, là, il me prend pas mes bouquins clés en main. Il me demande de rajouter des choses ou il me critique, mais c'est pas assez. J'aurais envie d'avancer sur mon style, j'aurais envie de progresser. Et voilà. Moi, je rencontre pas de problème dans l'écriture, mais pour finaliser mon bouquin, pour l'améliorer quand il est terminé, j'ai ce problème.
Et est-ce que tu penses qu'il faut être un grand lecteur de polar pour écrire un polar? Ou est-ce que c'est dissocié à ton avis?
Ben, moi, je pense, les gens me contactent pour des petits conseils de temps en temps. Et moi, c'est mon premier conseil, quoi. C'est de lire des centaines et des milliers de livres. Pour savoir un petit peu qui tu es, ce que tu as envie d'écrire. Parce qu'on écrit un peu parfois par mimétisme et parfois ça match, ça correspond à nos qualités. À d'autres moments, peut-être on possède pas ces qualités-là, mais en tout cas, il faut brasser du bouquin. Et moi, je sais que de 17 à 30 ans, je n'ai fait que lire. Parce que j'ai un très mauvais parcours scolaire, j'ai pas fait d'études littéraires. Donc, je suis autodidacte et j'ai bouffé du bouquin, mais vraiment, j'ai consommé.
Tu t'es formé en lisant, en fait.
Mais oui, mais ça me semble, je connais pas, je fais pas assez de salons, je fréquente pas assez d'auteurs, mais j'imagine pas qu'un écrivain n'ait jamais lu. Comme un marathonien ne peut pas faire un marathon de 42 bornes s'il n'a pas sa centaine de kilomètres d'entraînement par semaine, quoi. C'est pas possible. Il y a des codes dans l'écriture, en plus. Il y a des codes, il y a des clés. Tu sais que si tu veux proposer un polar à un éditeur, faut que t'aies des éléments polars. Sinon, tu vas te faire jeter. Il va pas prendre ton manuscrit parmi 4000 autres et le retenir si au bout de 10 pages, il a rien de polar là-dedans.
Certes, ça non, paraît c'est... logique.
Bah oui, mais.
Et justement, quelles sont tes influences ou tes inspirations ou des auteurs que tu apprécies particulièrement ou peut-être des livres que tu apprécies particulièrement, parce qu'on n'est pas obligé d'aimer tout d'un auteur.
Moi, j'ai eu un maître à écrire et j'ai eu un maître à lire qui m'a aussi conseillé dans mes lectures en étant lecteur débutant. Et je garde en tête déjà tous les Simenon, ces bouquins très courts. Très bien écrit, les nouvelles de Maupassant aussi, et c'est ce que je conseille aux gens qui ont du mal à lire et qui veulent se mettre à lire. Et prenez des petits livres 100, 200 pages, prenez des nouvelles et débutez comme ça. Et moi, c'était mes premières lectures et je m'aperçois que je fais des bouquins qui dépassent guère 200 pages et il doit y avoir un lien avec ça, avec ce plaisir que j'avais à lire des petites histoires.
La densité et, avant tout.
Ben voilà, enfin, en plus oui, ne pas bâcler les choses et même si tu n'as que 15 chapitres et que ton bouquin fait moins de 250 pages, tu dois tout y mettre, quoi. Enfin moi je fonctionne comme ça en tout cas.
Alors justement, quels sont tes projets d'écriture?
Eh bien là, je suis vosélien et je suis très attaché à la cité jardin. C'est 400 maisons qui ont été faites entre 1921 et 28 au cœur de Varennes-Vauzelles et je vais placer mon flic Bostik, je vais le placer là, il sera fait éjecté du commissariat de Nevers et il va se retrouver dans une piole de l'hôtel du Nivernais qui est un lieu assez connu par les Vauzéliens là. Et je vais faire une intrigue autour de mon flic Bostik et tes auditeurs sont un petit peu autour de l'aglo de Nevers, ils doivent peut-être connaître la statue de l'aviatrice qui est près de Bricot-Dépôt à Varennes-Vauzelles. Donc j'ai appris beaucoup de choses sur l'histoire de cette statue qui a été saccagée par des jeunes collabos en 1943. Enfin bref, il y a plein d'histoires. Je vais revisiter l'histoire de ma ville à travers un polar. Voilà, je vais essayer de le placer. Mon défi, c'est de conserver cet éditeur national qui a besoin pourtant de vendre des bouquins dans toute la France et d'essayer de le placer avec ma petite histoire de péquenaud vosélien. Voilà.
Alors justement, qu'est-ce que tu dirais à un lecteur potentiel qui ne connaît pas du tout Nevers, la Nièvre et encore moins Varennes-Vauzelles, pour lui dire que c'est quand même intéressant de lire un polar qui se passe par chez nous?
Ah ouais, c'est le conseil pour toutes les lectures, déjà de pas s'arrêter à la quatrième de couverture ni à la couverture. C'est prenez un bouquin, lisez la première page si l'auteur ou la romancière a été bonne, a bien fait son taf. Normalement, une page, ça suffit. Tu dois comprendre un univers, tu comprends le phrasé, tu comprends s'il y a de l'import, si la personne elle écrit pour elle-même en se regardant, ou si elle a beaucoup de personnages et qu'elle a envie de partager et de faire vivre. Voilà. Moi, j'ai pas à conseiller mes bouquins en particulier, mais je peux conseiller aux gens de lire, aller dans les médiathèques, prenez des bouquins d'occasion, et quand vous hésitez, vous lisez, vous mettez au calme, à l'écart du bruit, vous lisez la première page. Et là, ça doit t'embarquer ou pas.
Si on lit du polar suédois, pourquoi pas du polar nivernais finalement?
Ah oui, non, mais c'est du marketing, le truc. Enfin, les polars norvégiens, enfin, moi je le fais, enfin, c'est bon quoi. On fout des paysages de neige, on met des gens un peu taciturnes, la nuit polaire, truc.
C'est le Morvan, ça.
Mais oui, non, mais tu peux faire un polar norvégien dans le Morvan, effectivement.
Donc, nous terminerons sur le polar norvégien dans le Morvan, un nouveau filon peut-être à creuser. Merci beaucoup, Laurent Rivière, d'avoir répondu à notre invitation. Et j'invite bien sûr tous les auditeurs à aller sur le site de leur libraire préféré pour commander en ligne Dans les bras morts, La diagonale du loup ou Morvan de chien, et découvrir un peu de cette nièvre noire si surprenante et peut-être un peu suédoise. Voilà, les voix du livre vous donnent rendez-vous le mois prochain avec Michel Gazier. Et d'ici là, lisez, offrez des livres, des romans noirs ou arc-en-ciel. Vous retrouverez cette émission en podcast sur le site de BAC FM ou sur memorialiste.fr. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures livresques dans les studios de BAC FM.
Merci aussi. Au revoir.